Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yupi Surianto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commence par le journaux, suivi la revue de presse. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivie par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre mission, la rubrique d'illustration, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Bon, ses amis, on va écouter maintenant les journaux.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Le ministre angolais des Affaires étrangères, Jorge Rebelo Pinto Chikoti, effectuera une visite de travail en Indonésie du 10 au 12 avril 2017. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères de l'Angola tiendrait une réunion bilatérale avec le ministre indonésien des Affaires étrangères le 11 avril au bâtiment de Pancasila. Lors de la conférence de presse tenue au ministère des Affaires étrangères, Jakarta vendredi le 7 avril, Armanata a expliqué « L'Angola était le marché non traditionnel indonésien qui était très potentiel. Certains produits indonésiens sont… ou l'anglais de certains produits… Certains produits indonésiens sont déjà exportés vers l'Angola, entre autres l'huile de palme, les véhicules d'automobile, les cosmétiques, les papiers, les meubles de divers produits chimiques. L'Angola est également le marché potentiel pour les produits stratégiques de l'Indonésie. D'après Arman Atanasir, les deux pays signeront plusieurs protocoles d'attente. Il est prévu qu'à travers cette visite, on peut diversifier la coopération bilatérale non seulement limitée dans le domaine de la sécurité énergétique. Selon lui, cette réunion est une réponse positive à la stratégie prioritaire de l'Indonésie pour renforcer la coopération avec les pays africains, en particulier dans le domaine économique. Il a révélé que l'Angola était le troisième plus grand pays en Afrique après l'Afrique du Sud et le Nigeria. La valeur des échanges de l'Indonésie et le Nigeria en 2016 a atteint 192,8 millions de dollars américains dans le domaine du pétrole et du gaz. Le porte-parole du ministre indonésien des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a déclaré que l'Indonésie avait condamné fermement l'attaque missile américaine en Syrie. Lors d'une conférence de presse tenue à Jakarta vendredi, le 7 avril, Arman Atanasir a déclaré que l'Indonésie avait condamné l'utilisation des armes chimiques en Syrie qui a fait de nombreuses victimes, y compris les enfants qui se sont produits mardi. En tant que l'État partie à la Convention sur les armes chimiques, l'Indonésie a rejeté l'utilisation des armes chimiques par qui que ce soit à des fins. Mais en même temps, l'Indonésie a également condamné la contre-attaque des États-Unis en Syrie jeudi soir, le 6 avril, heure locale.
Pada saat yang sama, Indonesia prihatin atas serangan unilateral oleh pihak manapun, termasuk penggunaan rudal Tomahawk dalam merespon tragedi serangan senjata kimia di Suriah.
L'Indonésie est préoccupée par l'attaque unilatérale pour toute partie, y compris l'utilisation des missiles Tomahawk en réponse à la tragédie des attaques des armes chimiques en Syrie. L'action militaire qui est faite sans passer l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas conforme aux principes du droit international pour résoudre pacifiquement les conflits dans la Charte des Nations Unies. Armanat a expliqué pour l'Indonésie la paix et la stabilité en Syrie peuvent être atteintes seulement par le dialogue, un processus politique inclusif en soulignant que toutes les parties s'abstenir et de cesser toutes les violences, respecter et protéger les droits de l'homme, résoudre les conflits par la négociation et la diplomatie. L'Indonésie espère qu'avec l'ouverture de l'accès humanitaire, l'aide humanitaire peut entrer en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères a continué à coordonner avec le représentant permanent de l'Indonésie à l'ONU et l'ambassadeur de l'Indonésie aux États-Unis. L'Indonésie a continué à encourager et à insister le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures immédiates pour que la situation et le problème en Syrie peuvent être résolus. Le dernier, en plus de renforcer la coopération d'économie et du commerce, la visite du ministre du Commerce international du Royaume-Uni, Léon Force, en Indonésie, le 5 avril, vise également à fournir les dernières informations suite à la promulgation de l'article numéro 50 sur le Brexit. Léon Force a expliqué aux médias, au ministère indonésien des Transports maritimes et des Pêches de Jakarta, jeudi, qu'après avoir quitté l'Union européenne, le Royaume-Uni avait un agenda pour élargir la coopération avec d'autres pays, y compris les pays de l'ASEAN.
Dans 10 ans à venir,
au cours des 10 prochaines années, plus de 90% de la croissance mondiale sera générée en dehors de l'Europe. Et l'ASEAN sera une partie des importants de cette croissance économique mondiale. Et il nous intéresse en tant que pays de faire partie de cette croissance de l'économie mondiale. À travers la coopération avec l'Indonésie, nous pouvons développer l'économie au Royaume-Uni, soutenir le développement de la zone et contribuer à un programme de libre-échange mondial. Léon Force a expliqué que l'Indonésie était un pays à forte croissance économique et dynamisme. L'Indonésie est le principal partenaire commercial du Royaume-Uni en Asie du Sud-Est. Ce pays veut intensifier la coopération avec l'Indonésie, car le gouvernement de l'Indonésie s'est engagé à ouvrir des marchés et un programme de libre-échange dans le monde. Au milieu de l'action protectionniste, Léon Force est reconnaissant de pouvoir coopérer avec l'Indonésie que soutient le libre-échange. C'était la première visite de Léon Force en Indonésie et fait partie de la tournée de l'Asie du Sud-Est. Il a également visité le projet de Light Rapid Transit qui est soutenu par la Société britannique pour les Jeux asiatiques en 2018. C'est sur l'Utilité, c'était le journal aujourd'hui.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Média Indonésia le 6 avril 2017 qui a écrit « La nouvelle commissaire fait la course avec le temps ». Le Parlement a pris la décision sur le cas crucial aux dernières minutes, étant donné 30 jours pour mener à bien le processus électoral du commissaire de la Commission des élections générales KPU et l'Agence de surveillance de l'élection Bawaslu pour la période 2017-2022, le Parlement a choisi de se déplacer au dernier jour avant la date limite. Le mercredi 5 avril matin, la Commission 2 du Parlement a finalement terminé l'élection des candidats de commissaires de KPU et Bawaslu par le vote. 7 dirigeants de la Commission et 5 de Bawaslu ont été choisis après avoir subi pendant 2 jours consécutifs le processus d'ajustement et un test approprié. Cela a été fait parce que les exigences du public. Selon les médias indonésiens, dans les élections générales en 2019, pour la première fois, ce pays procédera aux élections législatives et présidentielle en même temps. Le défi n'est pas aussi simple que les élections précédentes. Ils vont superviser également la troisième étape de l'élection régionale en 2018. C'est la raison pourquoi toutes les parties ont exhorté le Parlement de finaliser des discussions sur le projet de loi électorale qui sera la base de la mise en œuvre des élections en avenir. Ensuite, l'éditorial du quotidien Business Indonesia le 4 avril a écrit l'intégration du donné d'identité. Le programme d'amnistie fiscale venait de terminer et les résultats sont déjà publiés. Certaines choses sont encore une préoccupation, comme la participation du contribuable et le montant des recettes de l'État. L'agitation de la question fiscale est également couplée avec le programme du gouvernement qui vise à la fourniture de données de transactions par carte de crédit à la Direction générale des impôts. Les avantages et les inconvénients surviennent parce que les clients de cartes de crédit sont inquiets au sujet de la charge fiscale et la confidentialité des données bancaires. Le plan a été annulé. La raison, les utilisateurs de la carte de crédit sont classés comme clients en dette et la dette n'est pas de revenu. Mais ce qu'a fait le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati et son équipe est unique pour faire une percée avec le lancement de la carte d'Indonésie 1 ou abrégée Kartin 1 plateforme, carte multifonctionnelle avec les objectifs d'intégration des données d'identité. Pour la Direction générale des impôts, la carte à puce ne facilite pas seulement les services fiscaux, mais les avantages seront très larges aux divers intérêts communautaires. Une telle carte contiendrait des données d'identité qui peuvent porter le numéro national d'identification et le numéro d'identification du contribuable, qui sont combinés avec le service de paiement BPJS de la santé, BPJS d'emploi, monnaie électronique et les données de permis de conduire. La garantie sur l'aspect de la sécurité est également donnée et la carte dispose d'un certificat de sécurité numérique en première validation des données biométriques, des cartes d'identité électronique et les informations d'impôt sur le revenu dans les produits de cartes bancaires. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Agus Martowardoyo, a déclaré que Kartin 1 est seulement la stratégie bancaire uniquement en offrant des produits de monnaie électronique au personnel de la Direction générale des impôts. Nous terminons avec l'éditorial du journal Sindo le 4 avril qui a écrit « La Chine domine les touristes étrangers ». En février dernier, l'arrivée des touristes étrangers en Indonésie a atteint 957 580 personnes. Les touristes qui tentent quelques-unes des destinations touristiques préférées dans le pays sont dominés par les touristes de la Chine, 21,31%, suivi de ceux de l'Australie, 10,6%, de la Malaisie, 10,48%, de Singapour, 9,76%, et du Japon, 4,29%. La visite de touristes étrangers au cours des deux premiers mois de cette année était encourageante. Pendant la période de février 2017, a enregistré une hausse d'environ 7,8% à 957 580 par rapport à la même période de l'année dernière, avec 848 310 visites. Pluto, le président Joko Widodo a ciblé jusqu'à 10 millions de touristes en provenance de Chine, en Indonésie, pour un maximum de 3 ans. Le chef d'État a estimé que chaque année, les Chinois qui voyagent à divers pays ont atteint 150 millions de personnes. Il est optimiste d'être capable d'attirer l'attention des citoyens chinois de voyager en Indonésie. Les gouvernements de l'Indonésie et de la Chine ont un accord avec des vols directs de la Chine à l'Indonésie. Outre la Chine, le gouvernement a également commencé à regarder les touristes du Moyen-Orient suite à une visite du roi saoudien Salman bin Abdulaziz Al Saud en vacances à Bali pour une semaine. L'arrivée du roi Salman à Bali encourage l'industrie nationale du tourisme. Cher ami, c'était la revue de presse.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous. Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 8 avril. Nous commençons avec le 8 avril 1946, la dernière réunion de la Société des Nations. La Société des Nations est une organisation internationale qui a été créée après la conférence de paix en Paris en 1919. L'agence a de multiples fonctions, y compris le désarmement, la prévention de la guerre par la sécurité collective, résoudre le conflit entre les pays par la négociation et la diplomatie, et d'améliorer le bien-être global. L'idée d'établir la Société des Nations a été lancée par le président américain Woodrow Wilson, bien que plus tard les Américains ne soient jamais adhérés à cette organisation. L'avènement de la Seconde Guerre mondiale renforce de plus en plus la réalité que la Société des Nations n'avait pas réussi à empêcher les guerres. Le 8 avril 1946, la Société des Nations Unies a tenu sa dernière réunion. 10 jours plus tard, la Société des Nations a été officiellement dissoute. Ensuite, le 8 avril 1970, des avions de guerre sionistes d'Israël ont attaqué indistinctement visant à l'école primaire Bahrul Bakr, 80 km au nord du Caire, en Égypte. Dans ce cas, 46 écoliers ont été tués. L'action très inhumaine évoque des émotions du monde. Plutôt, la communauté internationale a également été choquée par les actes sauvages des autres détenus régimes sionistes égyptiens dans la région. En février de cette année, des avions de guerre israéliens ont également pilonné des zones civiles dans l'est du Caire. En conséquence, a été détruite une usine et 168 travailleurs de l'usine ont été tués et blessés. Le dernier, le 8 avril 2013, l'ancien premier ministre britannique Margaret Thatcher est morte après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Margaret Thatcher est une femme politique de la Grande-Bretagne. Le premier ministre de la Grande-Bretagne d'une durée maximale de 1979 à 1990. En tant que premier ministre, elle a mis en œuvre des politiques que les conservateurs connus comme Thatcherisme. Le premier ministre Edward Heath nommé Margaret Thatcher ministre d'État à l'éducation et de la science en 1970. En 1975, Thatcher a vaincu Heath sur l'élection du président du Parti conservateur et est devenu chef de l'opposition, ainsi que la première femme à diriger une parti politique majeur à la Grande-Bretagne. Elle est devenue première ministre après avoir remporté l'élection de 1979. Thatcher a été réélue pour une troisième fois en 1987. Il a démissionné en tant que premier ministre et président du parti en novembre 1990 après Michael Heseltine a contesté son leadership. Après Thatcher a démissionné en novembre 1990, il est resté en député et assis sur l'arrière-banc jusqu'en 1992. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en titre, l'Indonésie et le Royaume-Uni accordent un nouveau projet de la coopération de recherche. Les gouvernements indonésiens et britanniques ont convenu de 10 nouveaux projets de collaboration de recherche qui renforceront la coopération de la recherche et de l'innovation dans une variété de sujets liés au développement socio-économique de l'Indonésie. Un tel accord était annoncé ensemble par le ministre de la Recherche technologique et de l'Haute Éducation, Muhammad Nasir, et l'ambassadeur britannique en Indonésie, l'ASEAN et Timor-Leste, Mu'azzam Malik, lors de la première commémoration du Fonds technologique et scientifique de Newton, Royaume-Uni, et l'Indonésie le mercredi à Jakarta. Dans son discours, le ministre Nasir a dit « Les chercheurs et les innovateurs sont des acteurs clés dans l'exploration du potentiel de la richesse de l'Indonésie. Cependant, les résultats de la richesse ne peuvent pas être classés comme des innovations avant qu'ils ne soient bénéfiques pour la société. » Ainsi, la collaboration internationale comme avec le Royaume-Uni est urgente pour que l'Indonésie n'ait pas besoin de repartir à zéro, le ministre Nasir a dit. Le centre de recherche comprend 8 domaines prioritaires, à savoir la sécurité alimentaire, la santé, la technologie de l'information, le transport, les matériaux de pointe, les énergies renouvelables et maritimes, a dit le ministre Nasir. Cependant, l'ambassadeur britannique en Indonésie, l'ASEAN et le Timor-Oriental, Mu'azzam Malik, a déclaré « La Grande-Bretagne et l'Indonésie ont accepté d'allouer un engagement commun pour 8 millions de livres pour financer les meilleurs projets et études conjoints du Royaume-Uni et l'Indonésie. Le financement de la recherche provient des deux pays, la répartition des fonds du Fonds Newton et de l'institution de gestion du Fonds de l'éducation LPDP. Selon Mu'azzam, l'allocation du Fonds du Royaume-Uni lui-même continue d'augmenter, passant de 2 millions à 3 millions de livres sterling pour cette année. Fonds Newton est un programme de fruits réels d'un protocole d'accord entre le gouvernement indonésien et le Royaume-Uni en ce qui concerne la recherche et la technologie, dont la signature a été témoignée par le président Joko Widodo et le premier ministre David Cameron en 2015. En 2017, État partenaire d'exécution et les bailleurs de fonds en Indonésie discutent de la possibilité d'une coopération dans le domaine des risques hydrométéorologiques avec un accent particulier sur les zones urbaines ainsi qu'une recherche unique sur la région géographique pertinente Wallace. Cependant, le Bureau météorologique du Royaume-Uni et l'Agence météorologique, climatologique et géophysique, BMKG, ont mené des discussions préliminaires pour la recherche conjointe sur les services météorologiques et climatiques. British Council et le gouvernement indonésien finaliseront également la coopération des bourses de doctorat. Ce programme est le premier programme de bourse financé par le gouvernement indonésien et le Royaume-Uni. Cher ami, c'était la mise au point. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Ce soir, nous vous en produisons la plage Watu Karung, qui se trouve à Pacitan, en province javaïse. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Pacitan, qui est également connu comme ville de mille étés grottes, est un quartier situé dans la pointe sud-ouest de la province javaïse. Pacitan est également célèbre pour avoir beaucoup de belles plages. L'un d'eux, la plage Watu Karung, située dans le village Watu Karung, district Pringkuku, régence Pacitan. Pour les amateurs de sport de surf, trouver des plages qui ont de grandes vagues est le bonheur. La plage Watu Karung est l'une des plages en Indonésie qui peuvent satisfaire ses désirs parce que les ondes à la plage Watu Karung est l'une des 5 meilleures vagues du monde. La plage Watu Karung offre un ensemble complet de la nature et aussi le sport du surf. La préservation et la propreté de la plage Watu Karung est encore très naturelle. Des rangées d'arbres verts, l'eau bleue, corail aligné le long d'une rangée de sable blanc ajoutent à la beauté des paysages dans la plage Watu Karung. Les vagues à cette plage sont en mesure d'atteindre une hauteur jusqu'à 4 mètres. Avec une grande vague et allongée comme en tonneau ou en toyau, ainsi que les fonds marins sous la forme d'un rocher, ne soyez pas surpris si de nombreux surfeurs de classe mondiale ont visité cette plage. Pour ceux d'entre vous qui veulent juste jouer sur la plage, ne craignez pas exposer à de grandes vagues, en raison des grosses vagues s'arrêtera sur le rivage et ne vous faites pas glisser vers la mer. Pour vous qui avez votre fils ou votre fille, pouvez nager, jouer aux éclaboussures et le sable sur la plage en profitant de la fraîcheur de l'air à cet endroit. Pour aller à la plage Watu Karung, ce n'est pas si facile car il n'y a pas de transport public ici. Si vous voulez visiter la plage Watu Karung, vous devez utiliser votre propre véhicule ou d'embaucher. Vous pouvez utiliser des véhicules à 2 ou 4 roues. Vous devez passer par petite rue, étroite et beaucoup de trous. Dans environ 40 km de trajet, dure environ 45 minutes du centre-ville, vous trouverez beaucoup de virages serrés et de pentes raides. Vous devez donc être vigilant. Vous pouvez entrer à la plage Watu Karung gratuitement. Pour visiter la plage Watu Karung, il y a certaines choses qui doivent être prises en compte. Préparez votre véhicule correctement, surtout si vous utilisez un véhicule loué, parce que le champ sera classé comme pas facile. Sur le chemin vers la plage Watu Karung, n'oubliez pas de demander, car il n'y a pas beaucoup de panneaux de signalisation routière. Pour les amateurs de surf, préparez votre équipement de surf aussi bien que possible. En raison des grandes vagues de classe mondiale, vous attendent déjà. Et bien sûr, n'oubliez pas d'apporter votre appareil photo. Le charme naturel ici est trop beau. Il est donc dommage si elle n'est pas adoptée. Pour ceux d'entre vous qui veulent encore passer du temps ici, vous pouvez louer un logement autour de la plage avec des taux variants de 100 000 rupiah. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. Aceh était frappée par un séisme majeur suivi par le tsunami en 2004. La fréquence de ce tremblement de terre frappe Aceh a fait trois étudiants de l'université Syah Kuala, Unsyah, créer du béton écologique. L'Indonésie en couleur aujourd'hui est sur l'utilisation des coquilles de pommes comme matériau pour le béton respectueux de l'environnement. Pour la plupart des gens à Aceh, le montage de palmiers usés à Aceh et la région environnante est seulement considéré comme des déchets. Toutefois, il ne s'appliquait pas à un groupe d'étudiants à l'université Syah Kuala Unsyah, à savoir Muhammad Fuji Hanafi, Arif Abdillah et Muhammad Anton Fajri. Deux œils usagés, les trois étudiants de la faculté de génie civil Unsyah étaient inspirés pour créer du béton écologique vu le montage de palmiers usés dans la région Aceh-Est, Nagan Raya et d'autres régions. Le chef d'équipe nommé Atta Kana Awai, Muhammad Fuji, a révélé les produits en béton de coquilles de palme ont des avantages par rapport au béton ordinaire. En plus d'être respectueux de l'environnement, ce béton est également plus léger, moins cher et à la puissance de pression 30 MPa. Jusqu'à présent, l'ingrédient principal de la fabrication du béton utilise du sable, du gravier, du ciment et de l'eau. Cette fois-ci, le sable et le gravier sont remplacés par des coquilles de pain que les matériaux qui sont plus faciles à trouver et à le prix abordable. En outre, si on utilise du sable et du gravier, fabriquer le béton aura un impact négatif sur l'environnement et peut conduire à une catastrophe à l'avenir. L'un des autres membres de l'équipe, Arif Abdillah, a ajouté, en plus d'être respectueux de l'environnement, le béton des coquilles de palmiers est également capable de réduire le risque de tremblement de terre dont il convenait à la communauté d'Aceh dont le territoire est sujet au tremblement de terre. Cette équipe prévoit d'augmenter le pouvoir d'appuyer afin que le béton en coque de palmier puisse être utilisé pour d'autres zones sujettes aux catastrophes en Indonésie. En outre, si les produits en béton sont acceptés par la société, il est prévu d'être produit en masse. Grâce aux innovations, les trois étudiants d'UNSHIA ont obtenu la troisième position dans le concours national de béton tenu par le Polytechnique Public Bali le 14 octobre 2016. Fajri Adi, cette équipe a le plan de breveter le produit et de participer à nouveau une course similaire. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain. Nous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes. Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9500.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir les amis, la voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine musical avec moi, Yubi Suryanto. Comme d'habitude, afin de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Et cette fois, nous avons sélectionné des chansons d'un groupe de musique s'appelle Band Dadali Band. Voici sa première chanson intitulée Di Saat Aku Mencintaimu.
Mengapa kau pergi, di saat aku mulai mencintaimu. Berharap engkau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku.
menyendiri lagi, menyendiri lagi. Di saat kau tinggalkan diriku pergi, tak pernah ada yang menghiasi hariku. Di saat aku terbangun dari tidurku, aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencinta. Kau tinggalkan diriku pergi, tak pernah ada yang menghiasi hariku. Di saat aku terbangun dari tidurku, aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai. Katakan padamu, aku sangat mencinta.
C'est une chanson du premier album de Dadali Band, publié en 2011. La bande Dadali est un groupe de musique d'origine de la ville Bogor, dans la province de Jaffa de l'Ouest, qui a été fondée en 2009. Ce groupe se compose de 6 personnes, telles que Dilga, chanteur, Richard, guitariste, Yuda, guitariste, Fadel, bassiste, Oki, bassiste et Rix, clavériste. Le plus spécial de cette chanson, qu'elle a gagné 21 millions de vues dans YouTube. Ce qui devient la question, pourquoi cette chanson est si spéciale? La réponse, que les amateurs d'audition sont familiers avec les tons mineurs de cette chanson et puis est devenue l'une des chansons qui est jouée suivant par les vendeurs ambulants. Les vendeurs de CD piratés aux chantres commerciaux, en particulier dans les régions. La bande Dadali a le surnom « Roi de YouTube » en raison de l'acquisition exceptionnelle sur YouTube. Chers auditeurs, voici la chanson de Dadali intitulée « Ku tak pantas di surga ».
Sudah terlalu banyak dosa yang aku lakukan, Tuhan, ampuni aku.
Namun ku takut pada neraka. Aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridamu. Beri aku kesempatan untuk menjadi yang lebih.
Le groupe musical de Dadali n'a jamais tourné en Indonésie, mais il a tourné plusieurs villes en Malaisie en 2012. En Malaisie, ils ont été accueillis chaleureusement par les jeunes de la Malaisie. Non seulement là, ils ont également gagné l'offre pour chanter au Brunei, à Hong Kong et à Singapour. Dadali Band a également reçu un prix musée indonésien du record au Muri, comme le clip vidéo qui gagne plus de téléspectateurs pour la chanson « Quand je suis dans l'amour ». Ou bien, par en dessous de cela, le groupe musical de Dadali essaye de négliger leur idée de la musique, car les chansons doivent être appréciées aussi par les amateurs. Nous allons terminer notre programme musical ce soir avec deux chansons de la bande de Dadali intitulées « Beaucoup d'hari » et « Di saat aku sendiri ». Bonne écoute, au revoir.
Kamu mencintai aku, dan aku tak tahu kamu inginkan cintaku. Yang ku tahu kamu sahabat setiaku, tak lebih dari teman sejatiku. Maafkan aku telah lukai hatimu, karena diriku tak tahu kau inginkan cintaku. Tak sengaja ku buka buku harianmu, ternyata diriku pangeran cintamu. Wahai sahabat,
biarkan aku telah lukai hatimu, karena diriku tak tahu kau inginkan cintaku. Tak sengaja ku buka buku harianmu, ternyata diriku pangeran cinta.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Hari demi hari telah ku lewati, tak pernah aku bersamamu lagi. Tak pernah aku menduga kau akan pergi tinggalkan aku. Jauh kau pergi tinggalkan diriku, sepi hati ini membunuhku. Ku coba untuk cari penggantimu, namun tak ada yang sepertimu. Rindu, aku sangat rindu kamu. Terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku terbangun dari tidurku. Rindu, aku sangat rindu kamu. Terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku sendiri. Sangat rindu kamu. Terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di
di saat aku terbangun dari tidurku. Rindu, aku sangat rindu kamu. Terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah ku melupakan dirimu di saat aku sendiri.
Rindu, aku sangat rindu.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio Republik Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.